Lorraine Laz, nous venons de découvrir l'exposition d'été proposée par le musée Ingladon, que vous dirigez et qui fête d'ailleurs son quart de siècle. Une exposition consacrée à Henri Matisse. Alors, comme vous l'avez précisé d'ailleurs en préambule de l'exposition, Matisse, c'est plutôt la couleur, le fauvisme. Et vous, vous focalisez sur le dessin. Alors, pourquoi le dessin au départ ?
Alors, c'est même plus justement sur la ligne, c'est-à-dire le rapport que Matisse peut entretenir avec le papier, avec les visions intérieures qu'il a, comment elles se coulent sur la feuille. Parce que dans le champ de la peinture, c'est un problème tout à fait essentiel. Il y a, pendant des années, par exemple, on parle de la querelle des anciens et des modernes, on parle des luttes entre Ingres et Delacroix. Voilà, le dessin, Weiss, la couleur. Évidemment, ce sont deux notions de la peinture qui s'affrontent régulièrement. Au moment de l'heure fauve de Matisse, on voit très bien le très très célèbre tableau qui s'appelle Le bonheur de vivre de 1905. Finalement, n'est pas du tout quelque chose de très heureux. C'est un tableau quasiment centripète, très coloré, mais qui n'arrive pas du tout à résoudre ce problème qui est comment allier sur une même surface picturale la ligne et la couleur. Parce qu'on pense à Matisse, évidemment, la gamme très très colorée avec des couleurs d'une grande délicatesse. Nous, on a voulu s'interroger sur la façon dont il traitait le papier, le trait dessus, la ligne, dont il réussissait aussi à circoncire cette blancheur du papier. Parce que c'est quelqu'un qui travaille le dessin, en tout cas en noir et blanc, et qui focalise son attention sur, justement, la tendresse du papier. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut parler considérablement à nos visiteurs. Tout le monde sait ce qu'est une feuille de papier, tout le monde a un jour tenu un crayon. Comprendre comment, dès l'instant où il y a l'intervention de la couleur de ça, il y a quelque chose qui se perd dans la ligne, la justesse de la ligne. Matisse, il commence à peindre, il a presque 25 ans, donc c'est relativement tardif. Ce problème, cette alliance, cette harmonie entre couleur et dessin, c'est vraiment quelque chose qui va interroger absolument toute sa vie. Que nous, lorsque nous voyons la peinture du Matisse, nous oublions. Mais en fait, si on regarde le reste, donc ce qui se fait sur papier, c'est quelque chose, on voit qu'il a considérablement à l'esprit. Donc l'exposition couvre l'ensemble, disons, de la trajectoire de Matisse. Elle démarre à 1900 et elle s'arrête à peu près aux années 50. On voit bien l'évolution incroyable que vit cette ligne. Matisse, c'est au tout début de sa trajectoire d'artiste, en 1908, il donne quelques cours à des élèves qui veulent apprendre la peinture, et il leur dit qu'il faut toujours rechercher le désir de la ligne, le point où elle veut entrer et mourir. Là, il a dit quelque chose de très simple, mais avec des implications vraiment complexes. Il est question de vie et de mort, aussi bien littéralement que métaphoriquement. Il est question également, en fait, d'un désir qui est plus grand que lui-même, ce qui veut dire, en fait, Matisse dit clairement qu'il est dominé par quelque chose, qu'il y a une force qui est plus grande que lui-même, qui coule sur le papier, qui a son propre désir à lui. Et donc cette histoire du désir de ce trait, on le file en fait pendant les 50 décennies que couvre cette exposition, à travers à peu près 120 pièces qui sont montrées, des manuscrits aussi, des ouvrages. Et on voit bien que c'est quelque chose qu'il n'abandonne jamais et que c'est une question qu'il taraude en permanence dans son travail d'artiste et auquel il a différentes réponses à différents moments de sa vie.
Ce qui est assez extraordinaire, surtout dans les premières pièces, c'est qu'on s'aperçoit que Matisse était extrêmement curieux. Il n'arrêtait pas de regarder, d'observer ce que faisaient ses camarades ou ses concurrents peut-être, d'autres peintres. Il essayait plusieurs techniques. C'était quelqu'un qui donnait l'impression de, sans arrêt, chercher, essayer, tester.
Mais oui, on a l'impression vraiment de ce grand artiste du XXe siècle qui n'a plus rien à prouver à personne. Or, jusqu'à la fin, absolument la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui doute en permanence. Et on voit bien que justement, les grandes phases de dessin, les grandes phases où il interroge ce problème de la ligne, sont vraiment des phases critiques totales. C'est vraiment des moments un peu difficiles pour lui. Ça va être les périodes de guerre, les périodes de maladie, les périodes d'hésitation, les périodes où il est très critiqué, par exemple. Il se relance voilà, dans ces phases de dessin. Matisse est quelqu'un qui a vraiment une écriture moderne, dans le sens, d'ailleurs, c'est l'un des papes de la modernité dans le sens où il chercherait à donner à voir son art, son écriture, sa façon de peindre, sa vision, sa composition. Or, pour réussir à vraiment trouver sa voix à lui, sa voix d'artiste, il lui faut connaître ce qu'ont fait les autres. Et c'est quelqu'un avec une extraordinaire culture visuelle. C'est quelqu'un qui a éreinté les collections du Louvre. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup inspiré de l'Orient, ça c'est très connu. C'est quelqu'un qui a une dette absolue au monde du cinéma. C'est quelqu'un avec une culture visuelle colossale. Et on voit bien que l'art des autres, vraiment, c'est pas l'objet de copie chez lui, c'est vraiment un objet d'étude pour réussir à trouver sa propre manière de voir les choses, sa propre vision moderne de la situation. Et ce parallèle leur est évoqué dans dans l'exposition, puisqu'il y a une vingtaine d'artistes qui sont invités en contrepoint. Donc nous montrons à peu près 20 autres artistes, une ou deux pièces à chaque fois qui sont montrées.
Et toujours des dessins.
Oui, oui, toujours sur papier. Et ça, c'est un choix critique qui a été fait par le commissaire avec moi de cette exposition, qui est un remarquable commissaire d'exposition, qui est Éric de Chasset, qui est directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art, notre partenaire dans ce projet. Et c'est vraiment lui qui a voulu, il est très pour les expositions monographiques, mais là, il a trouvé que c'était vraiment intéressant, dans le cas de Matisse, de voir ce qui a nourri son travail.
L'exposition est sous-titrée « Le désir de la ligne », le désir. Il faut reconnaître quand même qu'il adorait dessiner les dames. Le féminin, il est omniprésent dans votre accrochage.
Ah, complètement. Le désir de la ligne, on parle bien d'une ligne qui est tout à fait une ligne arabesque. C'est une ligne ronde, c'est une ligne douce, c'est une ligne effectivement sinueuse. Il est clair que Matisse, à certains moments, on pourrait avoir un regard particulier sur ça, tellement il s'agit presque de la pâtisserie, enfin, tellement c'est de la tarte à la crème. Oui, oui, c'est clair que Matisse porte cet objet très particulier du corps féminin, de la nature. Enfin, il y voit quelque chose de beaucoup plus. C'est la mer aussi. Enfin, il y a quelque chose de matriciel un peu chez lui. Il dira d'ailleurs qu'il n'y a aucune verticale dans la nature, que la verticale n'est que liée à la gravité, du fil à plomb, ou liée à une main humaine. Mais que la nature, à aucun moment, ne dessine droit, ne fait que des arabesques. Et cette arabesque, voilà, il la retrouve dans la rondeur du corps féminin. Après, Matisse, c'est un monsieur aussi d'une autre génération, probablement. Et c'est pas forcément quelqu'un de très facile à fréquenter, je crois. C'est quelqu'un qui aimait s'enfermer avec son modèle, s'enfermer des jours durant, la voir évoluer, l'arrêter, et ce moment en fait partagé avec elle faisait naître en lui des sortes de visions qui ensuite se retrouvent sur le papier. Donc il a besoin de s'imprégner complètement d'elle pour faire surgir à un moment des choses intérieures à lui-même, cette grande force désirante qui est celle de la ligne.
Vous avez choisi avec le co-commissaire de l'exposition un accrochage chronologique, c'est-à-dire que la première salle est née en 1900 et on arrive jusqu'au début des années 50. On a eu le privilège d'avoir une visite guidée par vous-même et à chaque fois vous nous parlez un peu de ce qu'a vécu Matisse. Il y a eu des moments heureux, il y a eu des moments de la guerre, il y a eu des moments handicapés par la maladie. Est-ce que ça signifie que le travail, la production d'un artiste est liée à ce qu'il vit ou à ce qu'il ressent physiquement ?
Je pense que là, en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un qui éprouve. Je ne pourrais pas faire cette lecture-là absolument pour tous les artistes. Mais enfin, même, je pense qu'en littérature, il y a rarement des choses qui n'aient pas un lien quand même avec une interpellation d'ordre personnel, intime. Oui, même si ce n'est pas directement autobiographique, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se trouve là. Après, il est clair que, à nouveau, les tableaux de Matisse peuvent être des choses... Voilà, on pense au poisson rouge, il y a des... tableaux qui sont extrêmement lénifiants, apaisants, très heureux, très décoratifs, des tableaux qui font du bien, qui sont joyeux. Je pense que vraiment Matisse n'est jamais quelqu'un d'heureux, c'est jamais quelqu'un de satisfait. Même à la fin de sa vie, il est toujours en train de douter, de chercher encore, de remettre en jeu ce qu'il sait déjà. C'est quelqu'un qui est perpétuellement en crise, c'est très clair. Et là, ça le traduit, c'est-à-dire, là, on a 50 ans couverts à travers 4 salles qui sont organisées chronologiquement, c'est qu'on voit bien qu'à un moment, il y a vraiment des phases qui sont très difficiles. Soit il est critiqué, soit il doute trop, il fait une peinture mais qui ne le convient pas vraiment, donc il cherche encore autre chose. Soit il a une question qui le taraude. En fait, ce que ça dit de Matisse aussi, c'est cette force de création qui est énorme, c'est-à-dire c'est quelqu'un, même alité, même en post-opératoire, il faut que ça sorte de lui. Encore une fois, on rejoint cette histoire-là que bien des artistes peuvent connaître, Matisse ou les autres, il y a quelque chose de plus grand que soi-même là-dedans. On n'est qu'à une sorte de médium qui laisserait passer une vision qui se traduirait plastiquement. Mais il y a quelque chose de plus grand que lui-même, et même quelqu'un comme Matisse éprouve ça.
Le couturier Jacques Doucet, qui est à l'origine de ce musée à Avignon, il a beaucoup acheté d'œuvres de Matisse. Et ils ont beaucoup correspondu, puisqu'il y a des extraits de leur correspondance. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Doucet et Matisse, ils avaient une relation privilégiée ?
Alors, une relation privilégiée, je dirais pas du tout ça, parce que c'est vraiment de l'ordre du très correct. On passe pas à la barre vraiment d'une relation de l'ordre de l'amitié. Autant Doucet a partagé des vraies amitiés avec d'autres artistes. Je pense par exemple à Marcel Duchamp, là il y a une correspondance très épaisse et très personnelle. Que là, avec Matisse, ce sont des rapports beaucoup plus de collectionneur à artiste. Jacques Doucet a vraiment envie de tableaux de Matisse. Matisse lui en propose plusieurs et ce sont des échanges autour de ça. Au final, la collection de Doucet a accueillera 5 tableaux, donc qui est quand même un élément remarquable de l'ensemble de l'installation de Doucet. Énormément de dessins et énormément d'estampes. Doucet voit bien combien c'est un artiste incontournable. Je dis ça, évidemment, on le fait après coup, parce que nous tous savons qui est Matisse, mais dans les années 1910, c'est pas aussi clair. Quand même, il est évident que Doucet a une sacrée vision, un sacré nez, pour sentir que là, chez Matisse, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs.
Qu'est-ce que vous appelez le tableau dans le tableau, le cadre dans le cadre ?
Matisse est quelqu'un qui va travailler beaucoup sur la notion de fenêtre. Beaucoup de tableaux de Matisse représentent visuellement, mettent en scène, en jeu, dans ce qu'on en voit de la composition, une fenêtre. Alors, le cadre du tableau, si on reprend cette histoire de la ligne droite, il est évident que le bord du cadre du tableau, c'est une limite du champ d'expression d'un artiste qui est non négociable, une limite horizontale, une limite verticale. À partir de là, c'est donc une fenêtre. Et à l'intérieur de ce tableau, on s'aperçoit que très souvent chez Matisse, il y a aussi une fenêtre. C'est comme si c'était quelqu'un qui travaillait sur l'espace littéral, le champ d'expression, qui est le champ indiscutable du tableau de la feuille de papier, et en même temps, il travaille dans la profondeur de sa composition, c'est-à-dire en faisant une fenêtre à l'intérieur, c'est bien qu'il fait se succéder des plans. Et donc ça veut dire que nous, visiteurs, regardeurs, sommes à l'intérieur de l'intérieur qu'il représente, puisque nous voyons la fenêtre qui ouvre vers l'extérieur. Ce qui veut donc dire, c'est peut-être pas très clair, mais ce qui travaille aussi bien le plan littéral du tableau que le plan de la profondeur en incluant nous, regardeurs, à l'intérieur. Donc c'est un travail en largeur et en profondeur. C'est vraiment quelqu'un qui a ça à l'esprit en permanence, d'inclure le regardeur à l'intérieur de ce qu'il propose à regarder. Tous les artistes ne font pas ça.
Certains murs de l'exposition travaillent sur la répétition, c'est-à-dire qu'on a le même modèle, mais dans une position légèrement différente. Puis à un moment, il y a même un mur où on voit la décomposition du mouvement, et il y a une sorte d'appendice à l'accrochage, à l'étage en dessous, qui est un film de Germaine Dulac, qui date du début du siècle, film expérimental, remarquablement restauré. Il y a aussi ce livre assez extraordinaire qui s'appelle alors « Jazz », on pense à jazz, évidemment. C'est-à-dire que Matisse, il était vraiment à l'affût de toutes les nouveautés en matière d'art, mais que ce soit le cinéma ou la musique.
C'est quelqu'un d'une extraordinaire sensibilité, donc il éprouve des choses. Et il y a un moment, c'est tellement fort qu'il faut que ça ressorte de lui dans une forme plastique, puisque lui, il est peintre, il est artiste plasticien dans la vie. Donc, effectivement, sa sensibilité, donc, on le voit parce qu'on montre d'autres pièces, d'autres artistes. Et par ailleurs, c'est quelqu'un d'incroyablement influencé par le cinéma. C'est très, très clair. Il y a des moments où je disais qu'il s'enferme, en fait, avec son modèle. Ce qu'il cherche à faire, finalement, c'est à créer des visions dans son esprit qui, ensuite, vont se retrouver sur sa feuille de papier. Ça veut bien dire qu'à un moment, il y a ce corps qui est en mouvement, qu'il va arrêter. Il fait un dessin en deux dimensions, on est bien d'accord qu'il y a un moment où il y a un arrêt sur cette image-là. Et donc il va découper en fait ce mouvement, parce que lui, son terrain d'expression est l'œuvre en deux dimensions, l'œuvre plastique. D'ailleurs, il en parle lui-même, il parle d'une cinématographie de sa sensibilité. Mais c'est vraiment ça, une sorte d'arrêt sur image, une succession. Et il y a même certaines pièces qui sont vraiment des décors de cinéma. Hein. Si on retirait, c'est ce que je vous disais en visitant, il y a vraiment des moments où on a l'impression d'être dans la villa du Mépris de Godard. C'est tout à fait clair. Et donc, nous avons choisi de montrer dans le parcours de visite, donc il faut que les visiteurs passent par la collection permanente ou au milieu, et présenter donc pendant le temps de l'exposition, un film de Germaine Dulac qui s'appelle « Études cinégraphiques sur une arabesque ». C'est un film de 1929 et vous avez vraiment cette période-là, c'est le début limpide du moment où Matisse s'interroge sur le cinéma, sur le cinématographe, cette écriture du mouvement.
On a une sensation assez particulière en tant que visiteur, parce que c'est une exposition de dessin, donc la lumière est extrêmement réduite, tamisée, pour ne pas abîmer les œuvres. Il y a des dessins qui sont de tout petits formats, donc parfois quand on arrive dans la pièce, il n'y a rien qui saute au visage. Et après, quand on commence à s'approcher des œuvres, on voit des dessins, par moments c'est juste quelques traits, c'est une esquisse, qui sont absolument magnifiques. Et vous avez eu une expression à la fin de la visite en disant « trouver une œuvre qui accroche le regard ». C'est pas plus difficile que d'habitude d'accrocher des dessins, ou ce type de dessin ?
Non, moi je crois pas, déjà, hein, parce que j'adore ça, donc je prends un plaisir fou, je dois dire. Oui, mais en même temps, je le dis souvent lorsque vous m'interrogez, je pense qu'il faut résister à l'appel de la consommation de manière générale. Le spectaculaire, à un moment, a aussi ses limites, on peut aussi être un peu fatigué de ça. Je pense que prendre le temps, tout simplement de vraiment regarder. C'est quasiment de l'ordre de l'expérience, un musée. À l'heure actuelle, ce n'est pas juste en prendre plein la gueule, c'est aussi éprouver, ressentir, prendre le temps. Si rien ne vous arrête, eh ben, ce n'est pas parce que vous ne savez pas regarder, c'est parce que cette œuvre-là n'a rien à vous dire. Mais il se trouve aussi, je pense qu'il y a bien des visiteurs à qui cette œuvre-là aura quelque chose à dire et qui s'arrêteront. Parce que les problématiques de papier, je suis d'accord qu'elles ne sont pas spectaculaires, mais en même temps, un papier parle à tout le monde. Tout le monde a eu une feuille de papier et un crayon entre les mains. Tout le monde sait bien ce que c'est. Pas grand monde s'est retrouvé avec vraiment de l'huile, des pinceaux, un chevalet de 15 mètres de haut. Enfin, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Tout le monde sait très bien ce qu'il est capable de faire sur une feuille de papier. Donc je pense au contraire, ce sont des médiums qui sont tout à fait intéressants pour montrer une voie que peut-être nos visiteurs n'auraient pas encore vue, faire plaisir, délecter. Nous ici, on est toujours très là-dedans, c'est-à-dire avant toute chose, il faut que vos yeux trouvent une sorte d'apaisement, qu'il y ait une ouverture aussi dans votre esprit qui puisse se faire. Lorsque vous dites qu'effectivement la lumière est très restreinte, il est vrai que c'est voulu pour la conservation des œuvres, mais il est vrai aussi que moi ça m'arrange bien, parce que je sais que vous rentrez dans cet espace-là, c'est pas un espace dans lequel vous vous trouvez d'habitude. Vous vivez un moment bien particulier. D'habitude, vous avez la lumière du jour, vous pouvez mettre plein de tubes, votre truc, enfin, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes dans un climat un peu différent qui, j'espère, peut induire chez le visiteur quelque chose de différent, ouvrir une porte qui n'ouvre peut-être pas si souvent que ça.
Au musée Angladon, il y a toujours le musée d'ambiance avec la collection habituelle. Il y a eu quelques années, il y a eu ici même à Angladon une belle exposition autour de Toulouse-Lautrec. Et là, vous avez un invité spécial, un certain Toulouse-Lautrec, pendant quelques semaines et quelques mois.
Oui, pendant quelques mois, alors nous avons beaucoup de plaisir. C'est jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous accueillons un tableau qui nous est prêté par le musée Toulouse-Lautrec d'Albi. C'est un tableau d'à peu près 1900 qui s'appelle La danseuse Gabrielle d'Henri de Toulouse-Lautrec, qui est prêté par le musée d'Albi parce que nous avons, nous, prêté à notre tour la repasseuse de Degas. Donc le musée d'Albi fait une exposition qui s'appelle « Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas ». Ils nous ont demandé le prêt d'un très beau tableau de la collection qui est la repasseuse de Degas. Et en échange, nous avons négocié que eux nous prêtent un tableau pour remplacer le temps de l'exposition. Et voilà, nous accueillons la danseuse Gabrielle pour quelques semaines.
Voilà, qui n'a rien à voir avec ses peintures de spectacle, il faut le préciser.
Non, mais il y a une fraîcheur, il y a une sorte de douceur, c'est un coloris très particulier.
C'est impressionniste, presque.
Un peu, presque, oui, oui. Et c'est une pièce sur carton aussi, donc ça c'est un médium qui est très fréquemment utilisé par Toulouse, mais là il y a vraiment une vision presque un peu bourgeoise aussi, ça rejoint certaines idées d'une vie parisienne en 1900 qui n'est pas forcément celle de la nuit.
Bon, une dernière remarque, Lorraine Laz, justement lorsqu'on rentre dans cette exposition Matisse, qu'on commence à s'approcher de certains dessins et qu'on voit la qualité du trait, il y a quand même aussi certains dessins où on se dit que c'était quand même un formidable dessinateur Matisse, mais au sens académique du terme.
Absolument, oui, il sait le faire, c'est-à-dire vraiment dessiner académique, il sait le faire. Et en même temps, ça, il le tord toujours, il le distord toujours. C'est une bête ligne parfois, il va donner un ventre, par exemple, alors qu'il s'agit vraiment d'une bête ligne, où il y a des moments où il veut rendre la force expressive d'un visage, la sensation que va lui donner un visage, et évidemment que personne ne construit ça comme ça. Il va faire un visage pas du tout comme un rond, mais il le fait avec plusieurs arcs de cercle. Personne ne dessine effectivement comme ça. Donc oui, c'est quelqu'un d'incroyablement fort en dessin.
Ouais. Passez un bel été.
Merci, vous aussi.